De la belle visite aujourd'hui, Jean-Nicolas et Mia Véro. Bonjour, comment ça va?
Salut, ça va bien toi?
Ça va très très bien. Allô?
Pas juste de la belle visite, il y a une belle vue chez vous.
C'est quelque chose, hein?
C'est de toute beauté.
Mais toi, tu connais bien le coin?
Oui, survenant, on tournait à Sorel, à l'Île-du-Port. Un peu à Sorel, beaucoup à l'Île-du-Port, parce qu'il y avait moins de traces de modernité à l'Île-du-Port.
Ouais.
C'était à peu près l'équivalent au niveau de l'époque, là, tu sais. Fait que, ouais, en face.
Fait que le bord de l'eau, tu le connais bien.
Oui, oh, oui, je le connais bien.
On est là pour parler de la Fondation Jeunes en tête, parce que vous avez décidé d'embarquer comme porte-parole. Il y a déjà Stéphane Bellavance qui est porte-parole de la Fondation, mais vous êtes ajouté à l'équipe de porte-parole. Comment c'est arrivé cette association-là pour vous deux avec la Fondation?
Bien, c'est arrivé, Mia, quand on a commencé à... En fait, on a tourné une vidéo. Jenny a quand même une maison de production, elle fait du corporatif,
oui.
des vidéos, des
avec Marie-Claude Savard.
Voilà, exactement. Puis, ils ont préparé une vidéo qui incluait Mia et moi, surtout Mia, qui parlait de... Bon, les défis qu'elle a par rapport à l'anxiété, par rapport à l'école, ce qu'elle vit au quotidien, qui peut être assez difficile. Cette vidéo-là a été utilisée, évidemment, par Fondation Jeunes en tête. Puis suite à cette vidéo-là, c'est là qu'ils nous ont demandé, « Bien, coudonc, il me semble que l'association est assez naturelle, dans la mesure où moi, ayant vécu beaucoup d'anxiété, et Mia aussi, vit encore beaucoup d'anxiété. » Je pense qu'on était deux porte-parole qui ça allait de soi, en fait. Ça parle, notre vie, notre témoignage par rapport à ce qu'on vit parle de lui-même. Donc, puis nous autres, on a décidé d'embarquer parce qu'on trouve ça extraordinaire d'intervenir à ce niveau-là.
Mia, pourquoi tu as voulu faire cette vidéo-là au départ? Parce que c'est pas simple. Tu racontes ce que tu as vécu à travers cette vidéo-là.
Oui, ben au départ, c'est une proposition de ma mère. Puis je me suis dit, c'est une très bonne idée. Puis, je savais même pas au départ, en fait, où la vidéo allait se rendre. Pour moi, c'était une vidéo pour moi, c'était une vidéo pour nous, en fait, au départ. Puis, par la suite, ça s'est rendu sur Facebook, sur le compte de Jeunes en tête. Puis, je me suis rendu compte que cette vidéo-là avait aidé beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages aussi de personnes de mes anciennes écoles qui me disaient « Oh, mon Dieu, Mia, wow, je savais pas, moi aussi, je suis comme ça. » Puis, ça m'a vraiment touchée. Fait que, ben, là, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans et aider les autres.
Qu'est-ce qu'ils font exactement, la Fondation Jeunes en tête? Ils vont dans les écoles, en fait?
Oui. Bien, concrètement, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, ils ont une animation qui intervient directement dans les écoles. Donc, cette animation-là parle, évidemment, de santé mentale, mais aide les jeunes aussi à se confier. Donc, sur le terrain, détectent beaucoup, déjà, à partir du jeune secondaire, des jeunes qui ont certains problèmes. Qui arrivent à se livrer, tout ça. Le pourcentage est assez élevé, c'est fascinant. Fait que ça aide beaucoup les jeunes, évidemment, à pouvoir en parler, à sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. Ça enlève le fait que tout ça... Tu sais, à l'école, souvent, on a l'impression de se marginaliser, mais d'être marginalisé, en fait, par les autres, puis pas vouloir parler de nos problèmes, puis faire partie du moule, puis être avec tout le monde. Puis... Tandis que là, eux, le fait qu'ils soient là sur le terrain avec leur animation, ils sont en contact directement avec les classes, avec les jeunes. Donc, les jeunes ont tendance à allumer, à se livrer, à sentir qu'ils ne sont pas nécessairement si différents des autres que ça. Puis que c'est normal de vivre des choses qui peuvent être troublantes, difficiles. Fait qu'ils ont une animation, plusieurs animations en fait. Mais la Fondation décerne certains prix aussi. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'ils ramassent à travers leur levée de fonds. Fait qu'ils décernent des prix, puis ils décernent des bourses à d'autres plus petits organismes qui œuvrent au niveau de la santé mentale pour les jeunes aussi. Fait que c'est assez tentaculaire, ils vont chercher un paquet d'affaires. Fait que ça, à ce niveau-là, c'est extraordinaire parce que c'est phénoménal ce qu'ils réussissent à aller chercher comme argent, ce qu'ils réussissent à trouver. Puis il n'y a aucune subvention là-dedans, ce n'est que par des dons. Fait qu'écoute, sincèrement, ce qu'ils font est assez énorme et gros, mais on a toujours besoin, on continue d'avancer. Puis là, avec la COVID, il y a bien des événements qui ont été annulés, qu'on faisait, des levées de fonds, donc on tente de procéder d'une autre façon. Puis ce qui est le fun aussi avec la Fondation, le fait que Stéphane soit là, c'est que j'appelle toujours ça, on est un peu devenu, on n'est plus de l'ordre du seul super-héros, on est comme les X-Men maintenant, t'sais. On a chacun nos forces, on a chacun nos pouvoirs, fait qu'on travaille en équipe. Fait que c'est vraiment trippant, là, tu sais, l'espèce d'idée que la Fondation est assez tentaculaire puis va essayer de ratisser le plus large possible pour intervenir au niveau de la santé mentale. Le fait que là, on soit plusieurs aussi, plusieurs intervenants, nous, on témoigne parce qu'on vit d'une certaine façon. Stéphane va chercher une autre gang, parle aux jeunes, tout ça a été beaucoup là aussi lors des animations, donc des ateliers. Fait que, ouais, c'est une belle affaire.
Dans la vidéo, Mia, tu dis que si la Fondation était venue à ton école, peut-être que tu serais resté à l'école. Mm. Tu penses que de voir d'autres gens ou d'entendre parler de l'anxiété un peu plus, ça t'aurait aidé sûrement de voir que tu n'es pas tout seul?
Oui, ça m'aurait aidé énormément parce qu'à l'école, dans ma tête, comme plusieurs personnes anxieuses, on pense qu'on est seul. Quand on regarde autour, les gens ils ont l'air bien, les gens ils ont l'air totalement confiants, pas stressés du tout. Puis si Jeune en tête était venu dans ma classe, il y a beaucoup plus de personnes peut-être qui se seraient ouvertes, qui l'auraient dit, qui auraient... Il y a des gens aussi qui sont pas au courant que c'est ça qu'ils vivent aussi, qui auraient été plus au courant,
qui auraient allumé sur ce qu'ils vivent.
Puis ça leur aurait permis à d'autres de voir aussi qu'ils sont pas seuls. Fait que
ça a peut-être permis aux autres de te comprendre aussi.
C'est vrai. Mm-hmm.
Parce que dans les témoignages que tu as reçus, il y a des gens qui t'écœuraient un peu à l'école là-dedans, j'imagine,
oui. Mm-hmm.
qui sont excusés ou en tout cas qui ont plus compris ce qui se passait.
Oui, bien, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont réécrit, comme j'ai dit tout à l'heure.
Ouais.
Parce qu'avant, comment je pourrais dire ça? J'avais une façon différente d'agir. Mon anxiété faisait que j'avais l'air spécial. Hein? Ça nous rend... Non, mais tu sais, parfois, on a l'air spécial.
Oui,
hein?
Oui. C'est le fun d'être spécial.
Mais fait que j'avais différentes façons d'agir, comme je dis. Fait que les gens, parfois, c'était plus facile pour eux de venir me juger, niaiser. Puis quand ils ont compris que c'était ça grâce à la vidéo, ils m'ont réécrit. Puis ils m'ont dit, oh mon Dieu, Mia, je ne savais pas, je suis désolée. Je suis pareille, maintenant je comprends. Fait que j'ai vraiment aimé ça, de voir ce petit message-là.
Mais ça t'a permis de constater que tu avais des amis qui avaient ça aussi.
Oui,
ben et
oui.
Qui n'en parlaient pas non plus.
Mm-hmm. Mais oui, exactement. Fait que c'est touchant, puis c'est le fun à voir.
On a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que leurs enfants faisaient de l'anxiété ou qu'eux-mêmes faisaient de l'anxiété. Ça s'est déclenché comment chez vous? Parce que vous en faites tous les deux.
Ben moi, jeune, je me suis rendu compte... Je me suis rendu compte plus tard du problème que je pouvais avoir. Mais jeune, si je me réfère à tout ce que j'ai vécu à l'école, c'était épouvantable. À partir du primaire, à partir de la maternelle, aussitôt que socialement, j'ai dû arriver à l'école avec d'autres enfants, ça a été pas loin du calvaire. Là, moi, je me souviens de certaines années où ma mère me gardait plus à la maison que j'allais à l'école.
OK.
Tu sais, elle n'a pas fait les bonnes affaires dans la mesure où... on parle des années 70.
Oui, mais on ne savait même pas c'était quoi à l'époque.
Exactement. Oh, ouais. Moi, je ne connaissais pas beaucoup de gens qui consultaient, surtout pas pour des enfants, aller voir en thérapie ou peu importe. Fait que ma mère, son réflexe, c'était de voir toute la sensibilité que j'avais et l'incapacité à me rendre à l'école et être avec d'autres enfants. Son réflexe, c'était de me garder le plus possible à la maison. On était chanceux. Je m'en sortais avec des pas pires notes, moi. Il y avait un côté de moi qui était capable de réussir à naviguer à travers tout ça. Je suis quand même allé à l'école jusqu'à l'université, plus l'école nationale. Fait qu'on peut te dire, pour quelqu'un qui n'aimait pas l'école, je suis allé longtemps.
Oh oui.
Mais c'était épouvantable. Ça a commencé... Les premières fois, là, moi, c'était là. C'était vraiment les premiers contacts à l'école. Parce qu'avant ça, c'était un petit peu de sport, mais c'était l'univers familial, tu sais, à 3 ans, 4 ans, 5 ans. On restait à la maison. Dans ce temps-là, on n'allait pas dans la garderie, tu sais.
Oh oui.
Fait que mais ça a été beaucoup ça.
Et pour toi, Mia, ça s'est déclenché jeune aussi, j'imagine?
Oui, bien, il n'y a pas eu de déclenchement, je dirais. C'est vraiment depuis la naissance.
Oui.
De ce que je me rappelle, là, même tout petite, mes mains, je bougeais mes mains, je faisais comme si j'avais un hochet dans les mains. Je faisais du flapping, bébé. C'était le premier signe, d'après moi, un peu d'anxiété. Puis tout petite, si on allait au parc, pas possible de jouer s'il y avait quelqu'un dans le module. Il fallait que je m'en aille, fallait que j'y revienne. Jouer quand il n'y a personne.
Ouais.
D'avoir des gens autour de moi, ça me stressait.
C'était pas de l'ordre d'un enfant qui fait juste le pousser un peu puis ça se règle.
Ouais,
non,
ouais.
C'est ça marchait pas du tout.
Ça,
là.
Une crise.
Mm-hmm. Puis en grandissant, ça s'est développé. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était de l'anxiété. J'avais beaucoup de difficultés à manger. On croyait que c'était un trouble alimentaire, mais on s'est rendu compte que c'était l'anxiété qui me donnait un gros mal de ventre, qui m'empêchait de manger. Puis c'est là qu'on a commencé la médication et tout. Puis c'est depuis ce jour que l'anxiété, j'arrive à mieux la gérer, puis la travailler.
C'est partie de notre vie et de ta vie.
Et le verdict est arrivé quand? Le diagnostic d'anxiété est arrivé quand? Je ne sais pas si on dit diagnostic.
Oui,
là, mais...
oui, quand même. Jeune, on est passé déjà à partir du primaire, là, déjà à partir de la deuxième année, troisième année. On avait déjà une certaine équipe en place parce que c'était très, très, très compliqué avec Mia. Donc, on a passé par tous les diagnostics. T'sais, il y a eu un peu de tourette jeune, il y a eu des obsessions, des TOC. Aussi, évidemment, tout ce qui s'ensuit, déficit d'attention. Fait qu'on est passé par tout ça. Puis, tu sais, les comorbidités de ça, ben c'est toujours de l'hyperactivité, c'est toujours de l'anxiété aussi, c'est tout ça. pour se rendre compte que ce qui prenait le plus le dessus, c'était vraiment le monstre, c'était l'anxiété là, qui mettait Mia dans différents états très complexes. Mais ça a commencé jeune.
Dans la vidéo, tu mentionnes qu'en secondaire 2, tu as changé de look. Complètement.
Oui, en secondaire 2, j'ai complètement changé. Durant l'été, j'ai changé la couleur de mes cheveux. J'ai essayé de changer un peu mon style aussi, parce qu'en secondaire 1, j'étais arrivée avec des cheveux bleachés, avec des petites lunettes rondes. J'aimais vraiment le look, mais je me faisais niaiser. Fait qu'en secondaire 2, je suis arrivée avec des cheveux bruns foncés, presque noirs, plus de lunettes, différentes façons de porter l'uniforme. Ça n'a toujours pas fonctionné. Je me faisais encore niaiser. Puis c'est rendu là que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de changer pour ça, tu sais. Puis que les gens, ils diront ce qu'ils veulent, mais moi, j'aime mon look, fait ouais. que je vais le garder.
C'est instinctif des jeunes, hein, quelque part, dans la mesure où quand ils sentent une sensibilité ou qu'ils sentent quelqu'un de différent, t'as beau essayer de faire n'importe quoi, les autres le sentent et le décèlent, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de penser des fois de pouvoir se transformer, disant « Ah, celle-là, ça va passer, je vais avoir l'air un petit peu plus comme tout le monde » ou… Non, il reste que ça transcende ce que tu es comme personne. Je veux dire, Mia est un être différent, sensible, spécial, le fun. Mais quand tu es jeune, le fun, tu ne le vois pas nécessairement tout de suite. Tu vois juste quelqu'un de différent.
Mm-hmm. Et on réagit souvent à ce qu'on ne connaît pas. Donc, la Fondation Jeune en tête, ça vient faire ça. Ça ouais. vient dire aux autres jeunes dans les écoles, bien, il y a ce type de jeunes-là qui
existe. Ça vient dire aux jeunes dans les écoles aussi que ça fait partie de la vie. Que ça fait partie de la vie de vivre toutes sortes de troubles profonds, que la santé mentale fait partie de la vie au même titre que la santé physique. Ouais. Tu sais. Puis c'est là que moi, là, j'en profite, là, tu m'ouvres une petite porte, là, c'est là que moi, j'ai mon message, là, ça pourquoi je me bats depuis une couple d'années, là, c'est que j'aimerais tellement que ça change dans les écoles. Je trouve que ce qui est le plus important au monde, c'est de prendre soin de nos jeunes.
Oui.
On s'entend qu'une société qui prend soin de ses jeunes est une société, je pense, qui devrait être en santé. Puis des fois, ça passe en dernier, ça. Puis on a encore la vieille mentalité que l'école, c'est pour apprendre des choses. C'est pour apprendre à compter, c'est pour apprendre à écrire. C'est ça, mais c'est un milieu de vie où les jeunes sont là tellement longtemps. Tu sais, à partir de l'automne, là, la majeure partie de ton temps comme jeune, c'est d'être à l'école. Fait que c'est un milieu de vie. Donc, un milieu de vie devrait être un milieu où on enseigne le bonheur, où on enseigne à se connaître, où on enseigne à apprendre à apprivoiser son voisin, puis où on enseigne à aimer. Puis on dirait que ça n'existe pas. Puis c'est là que la Fondation Jeunes en tête, moi, me rejoint énormément. Parce que, avec tous les efforts qu'ils font, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à rendre ça normal d'en parler dans les écoles. Puis tu sais, je disais tantôt que la fondation n'a pas de subvention, hein, c'est par des dons.
Oui, oui.
Fait que c'est important de le rappeler. Puis on a vraiment besoin des gens pour ça. Puis si on veut que notre société change, on a besoin de ça, on a besoin des dons des gens. Puis en allant sur la page Facebook de la Fondation Jeunes en tête, il y a un lien qui mène au lien GoFundMe.
Oui.
Puis c'est là qu'on peut donner une pièce, 10 piastres, 20 piastres, 100 piastres, peu importe. Mais c'est à travers ça que la fondation peut justement intervenir puis continuer à prolonger le travail qu'ils ont entamé qui est extraordinaire.
Tu as été retiré de l'école, tu fais l'école à la maison. Qu'est-ce que ça a changé, cette décision-là que tes parents ont pris avec toi?
Tout. En fait, à l'école, pour moi, non seulement il y avait l'anxiété, il y avait les gens qui riaient de moi, ouais. En fait. Je me faisais intimider pas mal. Mais il y a aussi le fait que travailler à l'école, on dirait que j'avais beaucoup de difficultés. Les lumières dans la classe, l'environnement, la journée était longue. Fait que pour moi, c'était plus difficile de me concentrer. Donc, le fait d'être à la maison, ça me permet de me reposer avant, après, vraiment d'y aller à mon rythme. Fait que ça aide beaucoup pour ma concentration. Ça vient beaucoup aider dans mes notes. Puis aussi, c'est beaucoup moins stressant pour moi. Fait que beaucoup moins d'anxiété aussi.
T'sais, le constat a été qu'il y avait deux gros défis pour Mia. Il y avait le défi social et le défi académique. Puis de mener les deux de front, c'était quasi impossible. Fait qu'il fallait comme mettre un environnement beaucoup plus sécurisant pour réussir à combler le défi académique. Puis parallèlement, nous autres, saupoudrer un peu de social oui. à travers tout ça. Mais Mia fait quand même des choses. Tu sais, moi, je me réfère à son âge. Là. Je n'étais pas rendu où elle est rendue. Elle se rend pas compte des défis qu'elle mène, des affaires qu'elle a tournées, juste venir te parler aujourd'hui, c'est énorme. Tu sais, moi, je faisais du sport quand j'étais jeune, puis le reste du temps, j'étais anxieux, tu comprends?
Ouais.
Je me débrouillais dans le sport, mais ce qu'elle fait, là, moi, je trouve ça, je la félicite régulièrement parce qu'elle a 102 pas de plus de fait que moi, j'avais à son âge. T'sais. C'est extraordinaire.
Est-ce que c'est à travers l'anxiété de Mia que tu as constaté que c'était ça que tu avais, toi aussi?
Ouais. C'est drôle, en s'en venant en voiture, c'est ce qu'on se disait, en s'en venant de voir. J'ai dit, tu sais, Mia, je veux juste que tu sois consciente que toi, comme personne, tu m'as fait faire, moi, énormément de chemin. Avant de rencontrer Mia, avant qu'elle soit dans ma vie, je dis rencontrer, c'est ma fille, mais bon, je trouve ça le point de l'expression. Avant de rencontrer cet être-là merveilleux, il reste que j'avais quand jamais commencé de thérapie, moi. J'avais pas mis le doigt sur un paquet d'affaires, mais l'arrivée de Mia, moi, me fait faire des pas de géant comme être humain. J'ai pas le choix. D'abord, je dis, la parade s'en vient. Si tu sautes dans le wagon, c'est ta famille. Là. Si tu sautes dans le wagon, t'es plus là comme père, tu disparais. Fait que moi, si je veux qu'on avance, là, puis ma blonde est très, on s'entend, là, est très, très proactive, puis ça avance. Fait que si tu veux avancer, saute dans le char, tu sais, dans le char allégorique. Puis, mais écoute, j'ai pas le choix de sauter, mais ça avance à pas de géant. J'ai pas le choix de me questionner constamment comme personne, parce que d'abord, c'est un petit miroir de ce que je suis en partie, tu sais. Puis si je veux qu'on avance ensemble en gang, ben moi, j'ai pas le choix d'avancer en fou aussi de mon bord, là, si on s'entend.
On a parlé de la vidéo que tu as faite tout à l'heure. Quand les entrevues ont commencé, quand vous êtes devenu porte-parole, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que tu allais accorder des entrevues? Est-ce que ça te rendait plus anxieux?
C'est sûr que ça crée une certaine sorte d'anxiété, de stress, mais j'étais contente aussi de voir que j'ai la possibilité de faire tout ça pour aider les autres. Fait que ça fait plaisir en même temps d'être un peu stressant.
Beaucoup stressée.
Oh, oui, quand même, oh, quand même. Oui.
Mm-hmm. Quand même, là c'est moins pire parce que c'est sa deuxième ou troisième entrevue radio. Fait que on dirait que, puis je comprends le phénomène de l'anxiété dans ce temps-là, c'est-à-dire qu'elle l'a vécu, puis elle sait que ça va être relativement similaire. Fait que c'est un petit pas de plus, fait que c'est un peu moins pire. Mais la première, là, était dans tous ses états, mais pourtant, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle était dans tous ses états, mais aussitôt qu'il a fallu qu'elle parle, pouf! Elle est devenue extraordinaire. Fait que c'est phénoménal, là. C'est d'un personnage à l'autre, là.
Est-ce que c'est un peu comme toi? Parce qu'il me semble que c'est le jeu, toi, qui t'a aidé à calmer ton anxiété.
Oui, moi, j'ai pas de stress par rapport à mon métier en tant que tel. J'ai pas d'anxiété. Oui, parce que je pense que jeune, quand j'ai commencé, surtout secondaire, à faire de l'impro et tout ça, mais même jeune, ma façon de m'évader était de reproduire aux trois quarts des films que je voyais. Fait que quand j'étais tout petit, mes sœurs m'appelaient l'extraterrestre parce qu'ils me voyaient jouer tout seul puis faire 5-6 personnages différents. Mettons, j'écoutais un western, j'en faisais à peu près le début, milieu, pratiquement toute la fin du film au complet. Tout seul après, en faisant les personnages. Fait que ça, je pense, me créait une possibilité de m'évader. Fait que j'ai l'impression que ça s'est ancré jeune, que quand j'étais dans un personnage, j'étais bien. Il n'y avait pas de stress. Fait que mon métier ne m'a pas créé un stress après ça. Quand j'ai eu à performer sur des productions, le rôle principal, peu importe, des grosses séries, beaucoup d'argent, je me souviens de me faire dire, ça t'énerve-tu, c'est ton premier gros rôle, gros budget, 7 millions pour un film. Puis, honnêtement, je ne pensais pas à ça du tout, parce que j'étais dans mon élément. Quand on disait action sur un plateau, gérer tout ça, faire mes personnages, proposer des affaires le plus complexes possible, c'est toutes des affaires qui sont trillantes, le fun, qui sont proches du sport, où j'ai toujours aimé faire du sport aussi, de la performance, mais qui sont paradoxalement, drôlement, là, c'est drôle que je te dis ça, mais qui sont rassurantes pour moi aussi. Probablement que ça vient du fait que tout petit, c'était mon monde, puis j'ai accepté de transposer ce monde-là. C'est peut-être là qu'était là l'anxiété, de dire « je vais en faire un métier, puis je vais le faire voir par tout le monde », mais on dirait que ça s'est fait naturellement. Puis c'est pour ça que j'ai pas d'anxiété, moi, par rapport à mon métier. J'ai l'anxiété par rapport à bien d'autres choses, là, par rapport à la vie en général, par rapport à rencontrer les billes, par rapport à s'occuper de ma famille, par rapport à tout ça, là, ça, je peux avoir énormément d'anxiété. Mais moi, quand je vais travailler, non, pas du tout.
Quand on est une personnalité publique, on se fait souvent approcher pour être associé à des causes, ce qui est le cas avec la Fondation Jeune en tête. Mais de savoir que ta fille embarque avec toi et le fait avec toi, est-ce qu'il y a une fierté différente de s'impliquer?
Il y a une très grande fierté. Il y a une très grande fierté, puis il y a Moi, j'ai souvenir que mon père m'a aimé beaucoup, mais a fait ce qu'il a pu avec les moyens qu'il avait. Mais là où on se rejoignait beaucoup, c'était les périples qu'on faisait de sport ensemble. C'était pas une grande communication que j'avais avec mon père, mais mon souvenir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des moments, des grands moments de complicité là-dedans. Puis là, en ce moment, j'ai l'impression de vivre ça avec ma grande fille. J'ai l'impression de qu'on installe ça tranquillement, qu'on a fait ces bouts de chemin-là vraiment ensemble. T'sais, pas juste papa et sa fille, mais un team. Fait que moi, ça me touche beaucoup de savoir qu'on est capable de partager ces moments-là. T'sais, ça crée des petits bouts aussi de conversation. En s'en venant en voiture tantôt, on a jasé un peu. Puis là, elle apprend à me connaître. Puis moi, je la connais un peu plus. Puis fait que ça, oui, ça me touche beaucoup.
Est-ce que ça vous a rapproché, t'as l'impression?
Est-ce que ça nous a rapproché?
Je sais pas, c'est toi qui vas répondre.
Non, pas à toi.
Pas à toi.
Il me tombe ses nerfs, ça maudit tant que c'est
tanné.
Mais non. Mais on a toujours été quand même assez proches. C'est sûr que je suis aussi très proche de maman.
Ouais.
Mais on dirait que depuis qu'on fait ça, dernièrement, on fait plus de petits moments ensemble. Exemple, on aime nos soirées films. On écoute un film d'horreur ensemble le soir. C'est pas tant que... On a toujours été proches, mais c'est pas tant que ça nous a rapprochés, mais c'est plus que ça nous a permis de passer plus de temps ensemble. Ça nous a permis de passer plus de beaux moments, puis...
Oui, parce qu'il faut dire que dans Dynamique, tu sais, elle sait que je suis un petit peu comme elle.
Mm.
Fait que c'est sûr que la personne qui la rassure beaucoup, c'est sa mère.
Ouais.
Tu sais, sa mère est pas du tout comme ça.
Fait pas stressée du tout.
Sa mère est bien ancrée, tu sais. Moi, l'artiste, un peu sur le nerf, un peu stressé, un peu vaporeux, un peu dans les nuages, un peu, tu sais, rêveur. On se rejoint dans le côté rêveur, par exemple. On écoute certains films ensemble, on partage des choses que sa mère n'aime pas du tout. Fait que ça, oui. Fait que je comprends Mia qui, quand elle a besoin de se faire rassurer, va plus se coller sur sa mère. Par contre, je sais pas, tu me corrigeras, Mia, mais je sais pas qu'est-ce que ça te fait de savoir que des fois, je peux comprendre un peu ce que tu... La boule que tu vis, le mal physique qu'on a des fois, les anxieux. Je sais pas si toi, ça te rassure de savoir qu'au moins je comprends ça.
Oui, mais c'est le fun à savoir. Puis aussi, c'est arrivé plusieurs fois que j'essayais de décrire mon anxiété à ma mère, puis mon père était capable de mieux le décrire que moi, parce que ça fait plus longtemps que moi qui le vis. Des fois, c'est pas toujours précis ce qui se produit, fait qu'il est là aussi pour... me préciser ce qui se passe.
C'est pas toujours précis.
C'est pas toujours précis.
On a la misère des fois. Elle a une belle image, Mia. Je sais pas si tu veux la dire, là, mais elle a une belle image de quand tu tombes en crise d'anxiété.
Oui,
c'est quoi?
C'est ça que j'expliquais tout à l'heure, le sable mouvant. Plus on s'énerve, plus on renfonce.
Cool, ouais.
Même chose avec l'anxiété. Hein. Plus on se conditionne au stress, plus on stresse, en fait, plus on coule, plus on est anxieux, pire, plus on a mal au ventre. Tandis que si on respire, puis on s'arrête, même chose avec le sable mouvant, si on bouge moins, puis on se dit ça va bien aller, c'est sûr, ça va aller beaucoup mieux, puis ça va être moins pire.
Dans la panique, c'est dur. Tu imagines.
Tu paniques deux fois plus.
Sur le bord du sable mouvant, dire à quelqu'un non, on fait juste pas bouger, là. Relax, tu vois, ça va bien aller. La personne qui est dans le sable mouvant veut juste s'en sortir. À ce moment-là, elle panique.
C'est vrai.
Qu'est-ce que la médication change? Tu en as parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui hésitent à aller vers ça. Ils disent on n'est pas malade, ça va bien physiquement, tout va bien. Qu'est-ce que ça change, la médication?
La journée serait vraiment pas pareille si je la, si je la prenais pas. Je le dis grossièrement, mais... La médication, ça me change pas.
Non, je comprends.
Je reste vraiment moi-même, mais... Ça me détend un peu plus. Cette médication-là est là pour venir gérer un peu mes nerfs. Si, exemple, je ne l'avais pas pris, je serais en boule en train de pleurer par terre. Mais puisque je l'ai pris, mon mal de ventre, il est encore là, mais il est plus facile à gérer.
Ouais.
C'est beaucoup plus facile pour moi. Ça diminue mon mal de ventre, donc ça me permet aussi de mieux manger, de passer de plus belles
journées. De voir clair un petit peu.
De voir clair aussi. Puis, tout autant, ma médication est pour la concentration. Fait que, ça m'aide aussi à me concentrer.
Tu sais, l'aspect se calmer, là, quand on est incontrôlable, ça permet de prendre au moins un petit peu plus des bonnes décisions. Des fois. Un petit peu plus éclairé, puis d'avancer dans ta journée. Tu sais, c'est un outil, c'est comme une paire de lunettes. Quand c'est pas utilisé à outrance pour des mauvaises raisons, quand c'est juste la bonne chose qui fait que tu fonctionnes bien. Ouais. Moi, j'en ai essayé un peu de médication. J'en ai pris pendant un bout. Là, j'en prends pas en ce moment. Peut-être que la vieillesse fait que je suis plus calme par rapport à certaines situations. Sauf que ma blonde vous dirait que mon déficit d'attention est revenu. Donc, quand elle me donne une liste d'épiceries...
Attention, elle entend, là.
Oui, si ça dépasse trois éléments, il faut qu'elle me l'écrive.
OK. Jean-Nicolas, tu as trois enfants, trois filles, avec des besoins particuliers. Qu'est-ce que ça représente comme dynamique familiale chez vous?
Ça représente beaucoup, beaucoup d'action. Ça représente des rendez-vous, ça représente des interventions, ça représente des situations plus ou moins normales de famille, dans la mesure où des fois il y a des crises ou des sorties à gérer. Donc, ça représente tout ça concrètement. Là. Ça fait que ça représente un quotidien qui est bien chargé. Nous autres, on n'a pas une immense maison, puis il y a comme une pièce qui est ouverte sur le salon, puis on appelle ça le vortex d'énergie. Tu sais, des fois, ma blonde et moi, on a essayé de jaser de quelque chose à cet endroit-là, puis c'est relié à la cuisine, à tout ça. Fait que c'est un endroit où on est souvent, puis c'est impossible. Impossible. Tant qu'il y a un enfant qui est debout, qui n'est pas en train de dormir, cet endroit-là est un gros vortex d'énergie. Fait qu'on est assez brûlé. Il y a beaucoup d'action. Mais en même temps, parallèlement à tout ça, on a des enfants hyper intelligents, très dynamiques aussi, puis fait que c'est des enfants très le fun, tu sais. Mais au quotidien, on a, c'est ça, des rendez-vous, des rencontres, des meetings, la thérapie familiale, tout ça. Là, tu sais, fait qu'on en a beaucoup.
As-tu longtemps hésité à en parler de tout ça, en entrevue? Parce que je sais, bien évidemment, on veut toujours savoir la vie. Nous, les méchants journalistes, le potin, on veut toujours savoir
il y a quelques années. Puis tu sais, Mia est rendue assez vieille à cette heure. Quand on parle de certaines choses, il faut y en parler avant aussi quand même. C'est quand même sa vie. Mm-hmm. Moi, j'ai hésité au début parce que j'avais envie de vivre ça, qu'on vive ça ensemble, puis qu'on essaie d'avancer, puis de s'en sortir ensemble là-dedans, sans exposer à tout le monde ce qu'on vit. Mm-hmm. Puis du moment que j'ai compris que ça pouvait aider dans le futur d'autres familles, d'autres adultes, d'autres parents, d'autres jeunes, d'autres enfants, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire au niveau des écoles, puis que ma dernière aussi, certains handicaps, dont certaines différences au niveau du visage, puis tranquillement, faire une espèce aussi de... pas d'éducation par rapport à ça, tu sais, mais tu comprends, de préparer un peu le terrain pour préparer les gens à tout ce qu'on est au niveau de la diversité, puis ce qu'on est comme personne, puis que... Fait que j'ai compris que ça valait la peine d'en parler. Ça valait la peine, oui, égoïstement, pour moi, parce qu'à quelque part, ça me permettait d'avancer aussi, puis de me libérer de certaines choses. Mais que ça valait la peine pour mes enfants, pour le futur de nos enfants aussi. Fait que là, à ce moment-là, j'ai beaucoup moins d'hésitation, puis j'ai envie sauter là-dedans, puis d'en parler, puis d'expliquer aux gens. Tu sais, quand je me promène avec Romy, la plus jeune, c'est pas arrivé beaucoup maintenant encore, mais on sait que ça va arriver. Tu sais, des gens qui regardent parce que, bon, elle a ses appareils, il manque un doigt, elle a un visage un petit peu différent. J'aime mieux quelqu'un qui vient me voir, puis j'aime mieux quelqu'un qui pose des questions, à qui on explique, que quelqu'un qui regarde d'une façon un peu particulière ou pratiquement, je dirais pas apeuré, mais tu sais.
Ah ouais, je comprends.
Fait que oui, il y a quelque chose qui fait que c'est important d'en parler. J'ai comme pas le goût. Puis il y a d'autres parents. J'ai tellement croisé de parents qui ont l'impression de vivre ça tout seul. Puis après un certain témoignage ou une émission, viennent te voir. Il y a des parents qui sont venus me voir. Il y a un monsieur qui est venu me voir en larmes à un moment donné qui m'a dit « J'ai écouté votre émission la semaine passée, j'ai vu le témoignage sur votre famille, puis moi, je vis telle chose. Ça m'a tellement fait bien. » Puis tu as vu que cette personne-là pensait qu'elle était seule au monde. C'est épouvantable, tu sais, d'être cloisonné comme ça, chacun de notre côté, à vivre nos affaires. Alors que, sans rentrer dans tous les détails, on devrait être capable de partager certaines choses qui nous font avancer comme société, tu sais.
Et d'ailleurs, vous avez fait venir de l'extérieur un gars qui a le même syndrome que ta fille.
Qui n'a pas le même syndrome, mais qui est un syndrome qui
s'apparente. Oui,
ouais, qui s'apparente, parce que le syndrome de Romy, c'est le syndrome de Nager, alors que lui, c'est le Treacher Collins. Okay. Mais c'est quand même, ça confère quand même de la surdité et des différences au niveau crânio-facial. La différence, je dirais, avec le Treacher Collins, c'est qu'ils ont en général rien aux membres supérieurs, alors que Romy, elle, Nager, il peut avoir, il y en a qui n'ont pas du tout pratiquement pas d'avant-bras, les avant-bras croches. Okay. Fait que il y a ça. Oui, on a fait venir Janie a fait venir avec une autre fille aussi. Elle a écrit à ce gars-là qui fait des conférences à travers le monde, qui a une histoire incroyable et épouvantable en même temps, parce que lui, ses parents l'ont abandonné jeune parce qu'il était différent. C'est épouvantable. Comme prémisse d'histoire, c'est épouvantable.
C'est dégueulasse.
Ses parents habitent à 50 km de chez lui. Il existe encore, là.
Okay.
Il le renie complètement. C'est fou. Puis ce qu'il fait est extraordinaire, c'est un être humain merveilleux. Puis c'est quasiment une rockstar, il est hallucinant, mais juste physiquement aussi, il s'entraîne, ses tatous puis tout, son look. Puis quand il fait ses conférences, il est tellement touchant. Fait que Janie l'a contacté, il est débarqué ici pour quelques conférences, finalement il en a fait énormément, puis il est venu deux fois, deux reprises. Mais quand il débarque, lui, puis qu'il vient jaser aux jeunes dans les écoles, c'est incroyable comment que les jeunes s'ouvrent, mais pour plein d'autres problèmes, qui vivent tout seuls de leur côté. Ils viennent le voir, lui. Au début, ils ont peur parce que c'est un peu différent. Ça prend cinq minutes, c'est démystifié. Il raconte son histoire, les jeunes viennent y parler. Puis se confient à lui pour plein de choses que ces jeunes-là gardent à l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas capables d'exprimer, mais ils ne sont pas bien à l'école. C'est fascinant comment ça ouvre les horizons puis ça ouvre les portes. Puis l'idée de Jeannette à travers tout ça, pour répondre concrètement à ta question, c'est qu'elle voulait justement aussi préparer le terrain pour notre enfant, puis préparer le terrain pour tous ces enfants-là qui sont différents avec lesquels on vit en communauté. Puis elle se disait qu'à travers ça, bien, c'était une bonne façon de le faire. T'sais. C'était une bonne façon de le faire pour notre fille. Notre fille est encore petite. Quand on lui parle de Jono, elle s'en souvient un petit peu, mais là, il faudrait qu'il revienne bientôt pour qu'elle elle va s'en souvenir, mais en même temps, c'est, elle n'est pas encore très consciente. Elle est consciente de plein des choses par rapport à elle-même, mais pas encore très consciente de tout ça.
Jean-Nicolas, avant de terminer l'entrevue, je vais parler de toute la vie, parce qu'on a appris que tu te joins à l'équipe. Tu fais le frère de Roy.
Oui, je fais le frère de Roy.
Et le fils de Michel Nangtou.
Voilà.
C'est comment cette série-là pour toi? Tu as commencé à tourner, là, c'est tourné.
J'ai commencé à tourner. C'est vraiment trippant parce que c'est un beau personnage. C'est une famille relativement dysfonctionnelle. Pour ceux qui ont vu la première année toute la vie, Roy comme personne est très mystérieux, mais son personnage l'est aussi.
Oui.
Fait que son personnage, on sait qu'il y a des antécédents au niveau de sa famille. C'est un peu glauque, louche, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, d'où il vient. Puis là, moi, je débarque, son frère, puis je viens brasser à soupe. Ça fait pas son affaire. Je sais pas, on peut pas dire que c'est le grand amour entre les deux frères. On peut pas dire que mon personnage est éminemment sympathique non plus. Mais ça crée une dynamique vraiment trippante, puis le fun. Voilà. Fait que c'est
donc, tu as des scènes de confrontation avec Roy, concrètement.
Oui, on a eu des belles scènes de malaise à jouer où je débarque là. Moi, je suis un policier là-dedans.
OK. Plus.
Fait que du bonbon à jouer. Du bonbon à jouer. Tu sais, c'est des bons partenaires de jeu. J'ai joué beaucoup de scènes dernièrement avec Hélène Bourgeois aussi. Tu sais, aussitôt que j'y envoie quelque chose, il y a tout de suite quelque chose qui se passe puis une réaction. C'est une game de tennis. Hein, fait qu'on a du gros fun. Là. Moi, j'aime ça. Aller loin dans des personnages, chercher des affaires, complexifier, densifier le personnage le plus possible. Là. On a eu des belles scènes à jouer là, où on n'était pas loin de David Lynch par bout. Là,
Et là, finalement, on va la voir en septembre, la série, après avoir été annoncée pour les fêtes, pour après les fêtes. Là, finalement, c'est septembre.
C'est
une bonne nouvelle, finalement.
Oui, oui. On est plus en ordre chronologique parce que là, on n'a pas le choix de livrer pour septembre, je pense. On y va quasiment un épisode après l'autre. Là,
okay. Est-ce que c'est le seul projet pour toi ou autre chose?
Non, il y a une autre série à Radio-Canada, mais dont je ne peux pas parler non plus, mais qu'on aurait dû commencer à tourner en avril.
Qui est reporté, donc.
Reporté, préparation février 2021.
Donc, okay. Pour tournage l'année prochaine.
Oui, okay. C'est ça. Voilà.
Et si on veut donner à la Fondation Jeune en tête, il y a la page Facebook où il y a un lien GoFundMe.
Voilà. Et puis c'est par là, c'est comme ça que fonctionne la Fondation. Tu sais, on a eu des gros événements où là, on ramasse énormément d'argent, mais là où c'est important, le travail de fond, c'est à l'année longue. Oh, c'est à l'année longue que n'importe qui se réveille un matin puis entend parler ou nous entend à radio ou voit Mia, peu importe. On entend parler de la Fondation, peut tout de suite aller faire un don là, là. N'importe quel jour de la semaine, en se levant le matin, let's go. Aller donner un 10, un 5, un 20, un 100, peu importe. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, voilà.
Jean-Nicolas, Mia, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci, c'est vraiment
merci,
super.
Merci à toi, Luc.
Merci, c'est vraiment
merci,
super.
Merci énormément.
C'est beau chez vous.